Alors, vous savez que le Shabbat commence le soir. On a inauguré le Shabbat hier soir. Alors qu'on regardait la première étoile, il y eut un soir, il y eut un matin, septième jour. Le septième jour, on devrait se reposer, normalement. On a assez parlé de ça. Mais si on commence la journée par la prière devenue habituelle, le psaume invitatoire, l'épître aux Hébreux le commande comme ceci. Vous savez qu'il finit, ils n'entreront pas dans mon repos. Et l'épître aux Hébreux insiste beaucoup là-dessus. Ils n'entreront pas dans mon repos. Si Josué avait introduit les Israélites dans ce repos, Dieu n'aurait pas dans la suite parlé d'un autre jour. C'est donc un repos, celui du septième jour, est réservé au peuple de Dieu. Car celui qui est entré dans son repos, lui aussi se repose de ses œuvres. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que nul ne succombe en imitant cet exemple de désobéissance. Vivante est la parole de Dieu. Alors on est invité à continuer. On va entrer en terre promise. Mais cette terre promise, savez-vous pourquoi on donne des dragées au baptême? Qu'est-ce que c'est que la terre promise? C'est la terre où coule le lait et le miel. Qu'est-ce que c'est que le baptême quand on est bon chrétien et qu'on est enraciné dans la tradition biblique? Eh bien, c'est l'entrée dans la vraie terre promise, qui n'est rien moins que le mystère même de Dieu dans la Trinité. On est baptisé dans le nom de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et alors, on faisait des petits bonbons avec du lait et du miel. C'est une coutume qui a perdu sa signification. Bon, alors on continue vers ce repos de Dieu. On n'a pas eu le temps de lire toute la Torah. On va simplement, pendant qu'on est en face de la chaîne des Abarim, dès qu'on distingue le mont Nebo, lire le récit de la mort de Moïse. Hier, avant d'entrer dans les frontières de Canaan, on a parlé de la mort d'Aaron, et maintenant nous sommes appelés à parler de la mort de Moïse. Dieu parla à Moïse, monte sur cette montagne des Abarim, sur le mont de Nebo, sur le mont Nebo, en face de Moab, face à Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux Israélites. Meurs sur la montagne où tu seras monté, et tu seras réuni au tien, comme Aaron ton frère, mort sur la montagne de Hor, fut réuni au sien. Et alors Moïse, avant de mourir, contemplant la terre promise depuis le mont Nebo, formule comme la prédestination de toutes les tribus, selon les territoires qui leur seront alloués. Au hasard de notre voyage en Terre Sainte, on va voir l'un de l'autre de ces textes. Je vous lis ici maintenant ce qui termine la Torah de Deutéronome. Alors, partant des steppes de Moab, Moïse gravit le mont Nebo, sommet du Pisga, en face de Jéricho. Et Dieu lui fit voir tout le pays, le Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Negev, le district de la vallée de Jéricho, ville des palmiers jusqu'à Tsoar. Et Dieu lui dit, voici le pays que j'ai promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob en ces termes, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y passeras pas. Et c'est là que mourut Moïse, serviteur de Dieu, en terre de Moab, selon l'ordre de Dieu. Il l'enterra à Pi Adonai. Alors ici, dans la tradition juive, on dit qu'il est mort d'un baiser de Dieu. Il l'enterra dans la vallée. Il l'enterra. Qu'est-ce qui a enterré Moïse? Problème. Il l'enterra. Hier, c'est Dieu lui-même qui a enterré Moïse au pays de Moab vis-à-vis de Beth Peor. Et jusqu'à ce jour, nul n'a connu son tombeau. Moïse avait 120 ans quand il mourut. Pas 3 fois 40. 40 ans à la cour du Pharaon, 40 ans au désert et 40 ans dans cette aventure qui se termine ici pour lui au mont Nebo. Son œil n'était pas éteint et ni sa vigueur épuisée. Les Israélites pleurèrent Moïse 30 jours dans les steppes de Moab. Les jours de pleurs pour le deuil de Moïse s'achevèrent et Josué, fils de Noun, était rempli de l'esprit de sagesse car Moïse lui avait imposé les mains. C'est à lui qu'obéirent les Israélites agissant selon l'ordre que Dieu avait donné à Moïse. Ce sont les derniers versets de la Torah ici. C'est plus levé en Israël de prophète pareil à Moïse, lui que Dieu connaissait face à face. Que de signes et de prodiges Dieu lui fit accomplir au pays d'Égypte contre Pharaon, tous ses serviteurs et tout son pays, quelle main puissante et quelle grande terreur Moïse avait mise en œuvre aux yeux de tous les Israélites. Tout Israël. Il ne s'est plus levé en Israël de prophète pareil à Moïse. Et le jour où on termine solennellement la lecture de la Torah, à la fin de l'octave de la fête de Sukkot, on reprend tout de suite Bereshit bara Elohim, le premier chapitre de la Genèse. Et pour les Hébreux, il y a la Torah, les prophètes, et puis ensuite, qui commence avec Josué, jusqu'à Malachi, et puis ensuite les écrits, avec une place spéciale pour les psaumes. Mais dans la liturgie, je me rappelle très bien, autrefois, j'y allais beaucoup. On termine la Torah et puis on reprend. Mais alors, pour nous chrétiens, il y a un texte qu'il faudrait savoir par cœur, encore un texte qu'il faudrait savoir par cœur. Le texte se trouve au chapitre 18 du même Deutéronome. Et alors, oui, ce texte est en filigrane dans tout le Nouveau Testament. Et on peut dire que l'attente se cristallise autour de ce texte. Moïse, avant de mourir, a prédit lui-même un autre Moïse. On dit qu'il ne s'est plus levé, de fait, mais l'espérance reste ouverte à la venue d'un autre Moïse que Moïse lui-même a prophétisé. Écoutez ce texte ici. « Quand tu entreras dans le pays que le Seigneur te donne, tu ne commettras pas les abominations de toutes ces nations. » On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer au feu son fils ou sa fille. Rien de plus abominable que ces sacrifices humains que pratiquaient couramment les Cananéens. Qui pratiquent divination, incantation.
Le sacrifice d'Abraham, là.
Oui, c'est ce qu'on a dit au propos du sacrifice d'Abraham. Qui pratique divination, incantation, mantique ou magie. Personne qui use de charme, qui interroge les spectres, comme le fera Saül avec la sorcière d'Endor, la pythonisse. Les devins qui invoquent les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination au Seigneur ton Dieu. Et c'est à cause de ces abominations que le Seigneur ton Dieu chasse ces nations devant toi. Tu seras sans tâche vis-à-vis du Seigneur ton Dieu. Car ces nations que tu dépossèdes, écoutez, enchanteurs et devins, mais tel n'a pas été pour toi le don du Seigneur ton Dieu. Alors voilà ce texte ici. Le Seigneur ton Dieu suscitera pour toi, du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi que vous écouterez. C'est cela même que tu as demandé au Seigneur ton Dieu à l'oreille au jour de l'assemblée. Pour ne pas mourir, je n'écouterai plus la voix du Seigneur mon Dieu, je ne regarderai plus ce grand feu. Et Dieu me dit, ils ont bien parlé. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète semblable à toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Si un homme n'écoute pas mes paroles que ce prophète aura prononcées en mon nom, alors c'est moi-même qui en demanderai compte à cet homme. Mais si un prophète a l'audace de dire en mon nom une parole que je n'ai pas ordonné de dire, et s'il parle au nom d'autres dieux, ce prophète mourra. Peut-être vas-tu dire en ton cœur, comment saurons-nous que cette parole Dieu ne l'a pas dite? Si ce prophète a parlé au nom de Dieu et que sa parole reste sans effet et ne s'accomplit pas, alors Dieu n'a pas dit cette parole-là. Le prophète a parlé avec présomption, tu n'as pas à le craindre. Et vous connaissez tous l'histoire du rabbin qui est plongé dans ses livres. Et puis alors, sa lampe est allumée, les rideaux sont fermés, la fenêtre. Et puis il entend le chauffard, la trompette qui annonce l'arrivée du Messie. Alors il quitte ses livres, il ouvre les rideaux, il ouvre la fenêtre, il regarde et il voit qu'il n'y a rien de changé. Alors il retourne à ses livres. Et à mon avis, la seule question qu'on a à se poser, nous chrétiens, c'est est-ce que nous ne sommes pas responsables en grande partie de cela, par notre comportement au cours de l'histoire? Moi, j'ai revu à l'université hébraïque toute l'histoire de l'Église, comme à l'envers. C'est terrible. Il ne s'agit pas tellement de questions intellectuelles, il s'agit de traumatismes. Et ce n'est pas du jour au lendemain que ça se liquide. Il faudra longtemps, longtemps, longtemps encore pour tuer la méfiance et pour que la confiance règne. Mais si vous, beaucoup de chrétiens me demandent, mais alors qu'est-ce que les juifs pensent du messianisme? Alors là, moi je pense que le moyen, le meilleur de se rendre compte de ce qui est courant dans la mentalité juive, c'est de lire dans le grand Maïmonide, Rambam. On aura l'occasion d'en parler à Tibériade. Et saint Thomas d'Aquin, qui vit après, a une grande estime pour ce Rambam, qui a utilisé les catégories aristotéliciennes de pensée pour faire un effort de conciliation entre la foi et la raison. Et saint Thomas est héritier un petit peu de cet effort-là. On en parlera à Tibériade. Mais Rambam, à la fin du, si je me souviens bien, a interrogé les spécialistes là, du traité Chofetim, traite du messianisme. Il montre ce que doit être le Messie pour les Juifs. Et il parle incidemment alors de Jésus et de Mahomet. Et je crois que la meilleure réponse aux questions que tout le monde pose est là. En tout cas pour nous chrétiens, première question qu'on va se poser, Saint Paul dit qu'ils se convertiront par jalousie. Qu'est-ce qu'on fait pour les rendre jaloux? Enfin, alors on va vivre ici, vous voyez, on va passer de Moïse à Jésus-Christ. Moïse meurt sur le mont Nebo et Jésus formule ses options messianiques sur une montagne symétrique du mont Nebo par rapport au Jourdain. Et là, en 40 jours de retraite, il reprend cette aventure. On a déjà vu la similitude de langage qu'il y a entre le langage du Deutéronome, le chapitre 8 qui résume l'expérience où le peuple a trouvé son identité. Rappelez-vous ce qu'on a dit hier, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais ce qui sort de la bouche de Dieu. Jésus reprend ces textes. Et dans ces 40 jours, il reprend à son compte cette aventure, pas des 40 ans. Et alors nous allons évoluer dans un paysage radicalement différent. Jusque maintenant, c'était les paysages grandioses du désert, la solitude du désert. Et puis, en quelques heures, passer de ce paysage désertique, regardez le bien, au soleil levant. Et nous allons passer à Jéricho, et puis ensuite remonter rapidement à la vallée du Jourdain, tomber dans les marécages qui sont au sud du lac, et puis nous allons camper ce soir dans une forêt entre Nazareth et le Tabor. Et le pays, il n'y a pas d'arbres ici, c'est complètement désert. Ce changement de climat sous-tend, au fond, le passage que nous allons faire de l'ancienne à la nouvelle alliance. On étudiera cette formidable métamorphose, mais avant de l'étudier, il faut la faire. On va passer de Moïse à Jésus-Christ, de l'Ancien au Nouveau Testament, et la géographie de ce pays sous-tend l'expérience que nous allons faire. On va avoir d'abord l'aspect, il y a des métamorphoses, tout ce que ça implique à la fois de dépassement et de continuité. Demain, on va voir le dépassement, et puis ensuite, on réétudiera la continuité. On verra que ce n'est pas une autre alliance, que pour être nouvelle à tout point que les nouvelles créations, ce n'est pas pour autant une autre alliance. C'est le même Dieu qui poursuit son dessein dans l'histoire. Et on arrive à la plénitude des temps. Alors on va parcourir tout le pays maintenant jusqu'à une autre montagne où on rencontrera Moïse et Élie. Et puis on rebondira, parce que Moïse et Élie, à la transfiguration, parlent de l'exode qui s'accomplira à Jérusalem. Et puis alors après, on récupérera ensuite autour de Jérusalem tout ce qu'on n'a pas pu faire encore, dans la mesure où on peut le faire dans les circonstances actuelles, en Samarie et puis du côté de Bethléem. Et puis ensuite tout se centrera sur Jérusalem, comme lieu saint au singulier. Et vous verrez que les événements de l'évangile ne prennent leur signification que dans la signification de Jérusalem, au terme des contractions de l'Ancien Testament et au point de départ des épanouissements du nouveau à travers le temps et l'espace. Et puis ensuite, il restera une journée que je n'ai pas numérotée. C'est la route, je dirais pas d'Emmaüs, mais des Emmaüs.
On va continuer à vivre cette journée capitale en ce Shabbat, cette journée capitale qui va nous faire passer de l'Ancien au Nouveau Testament. Et faisons un petit peu comme la Bible nous apprend à faire, retournons-nous vers le passé un petit peu pour reprendre notre élan vers l'avenir. On a commencé notre périple en contemplant Jérusalem, et le but c'est de montrer Jérusalem comme lieu saint au singulier, éveiller l'intérêt des chrétiens sur Jérusalem comme lieu saint au singulier, où toute la Bible se concentre pour y prendre une signification plénière et ce qui se projette à travers le temps et l'espace. Et puis ensuite, alors, nous avons été prendre les choses au commencement, par une longue route qui nous a amené jusqu'à dans la montagne d'Elat, à la charnière du Sinaï et du Negev. On a renouvelé là l'émerveillement en écoutant le premier langage que Dieu parle dans la nature. Ensuite, on a vécu l'histoire de l'Alliance dans les montagnes d'Elat. Et puis ensuite, alors, on est descendu au point le plus profond du globe. C'était une invitation à descendre au point le plus profond de nous-mêmes, dans une préparation à la nouvelle alliance. Et du point le plus profond du globe, dans la région de Sodome et Gomorre et de la mer Morte, on a vu se lever l'étoile. L'étoile qui symbolise tout le dynamisme du messianisme. Et on a campé sous les étoiles, on a parlé de l'étoile de Balaam, de Bar Korba, on a vu les étoiles du côté de Bethléem. Le moment n'est pas encore venu d'aborder à l'école du bon scribe qu'est Saint Matthieu le prologue à la charnière de l'Ancien et du Nouveau Testament. On va continuer notre route. Et alors maintenant, nous avons dépassé déjà Masada, Bar Korba, le fils de l'étoile, et nous voilà en route vers Qumran. Nous allons rendre visite aux Esséniens. Puis ensuite, vous voyez comment le programme est dessiné sur la carte. On va arriver à Jéricho, et puis au Jourdain, il y a toute une spiritualité du Jourdain. Et puis on va aussi jouer le jeu de la Bible sur le terrain, en laissant parler tout ce que le pays a à nous dire, tandis que nous remonterons en Galilée. Et le sommet de la journée, ce sera la rencontre. La rencontre à l'école de Jean-Baptiste, le plus grand parmi les fils de la femme, au dire de Jésus, et qui s'efface devant celui dont il ne s'estime pas digne de dénouer la courroie de la sandale.
Continuons dans l'élan de l'étoile qui s'est levée. Et alors nous arrivons maintenant chez les Esséniens. On connaissait déjà l'existence des Esséniens. Pline l'Ancien dit qu'à l'ouest de la mer Morte, à une certaine distance du rivage, sont les Esséniens. Peuple solitaire, le plus extraordinaire qui soit, sans femme, sans amour, sans argent, vivant dans la société des palmiers. Mais ils se renouvellent régulièrement et les recrues leur arrivent en masse. Papline l'Ancien a vécu de 23 à 79 après Jésus-Christ. Il est mort dans l'éruption du Vésuve. Il avait dû aller en Terre Sainte. Philon d'Alexandrie, lui qui a vécu de 20 avant Jésus-Christ à 54 après. Quelques-uns des Juifs de Palestine sont nommés Esséniens. Ce sont, s'il en fut, des serviteurs de n'immolant pas d'animaux, mais s'ingéniant à rendre leurs pensées vraiment dignes de personnes consacrées au sacerdoce. Ils s'appliquent fortement à la morale, prenant constamment pour guide les lois de leurs ancêtres. Ils les étudient en tout temps. Ils n'ont qu'un cellier pour tous, leurs dépenses sont communes, les habits communs, la nourriture commune, tout ce qu'ils reçoivent de salaire pour leur travail de chaque jour, ils ne le gardent pas en propre, mais le mettent en commun, offrant au service de tous l'utilité qu'on en pourra tirer. Alors Flavius Joseph, c'était un juif modéré qui a été chargé à Jérusalem dans les années 60 de préparer la résistance contre l'arrivée des Romains, dont on attendait le débarquement au port de Ptolémaïs à cause. Et il a organisé toute une série de fortifications. Le centre de son dispositif, c'était une ville près de Cana de Galilée, une ville appelée Yotapata. Alors les Romains sont arrivés et puis tout le dispositif a été méthodiquement mis par terre et Joseph s'est retrouvé tout seul dans une grotte à Yotapata avec d'autres officiers avec lui. Alors ils ont décidé de se suicider plutôt que de se rendre aux Romains. Ils ont tiré au sort pour savoir qui tuerait qui. Et le sort a voulu, comme par hasard, que Joseph ben Matityahu, c'était comme ça qu'il s'appelait à ce moment-là, ne se suicide pas, ne reste le dernier plutôt. Alors il a tenu ce raisonnement, c'est peut-être pas la peine que je me suicide, qu'est-ce que ça va changer à la situation, alors que non seulement il s'est pas suicidé, mais il a été rendre visite à Vespasien. Vespasien, c'était le général romain. Et il lui a prédit non seulement qu'il serait vainqueur, mais qu'il serait empereur. Et Vespasien était tellement flatté qu'il a adopté Joseph ben Matityahu dans sa famille, la gens Flavia. Et c'est devenu Flavius Joseph. Alors, Flavius Joseph est un des principaux historiens de l'Antiquité. À mon avis, après la Bible, dans la bibliothèque, il faut avoir une édition de Flavius Joseph. En anglais, c'est un livre de poche. En français, il y a une édition de Arlo Dandy, une vieille traduction qui est savoureuse, mais qui n'a pas le même système de référence, c'est pas commun de s'y retrouver. Celle qui est la plus praticable, c'est celle d'un certain Vidal Naquet, qui a publié ça aux éditions de Minuit il y a une dizaine d'années. Et c'est précédé de la guerre juive, d'une longue introduction qui s'appelle Du bon usage de la trahison. Alors Flavius Joseph nous raconte Masada, c'est grâce à lui qu'on a tout cela. Et il nous parle aussi des Esséniens de Qumran. Ils nous disent un peu comment ils s'occupent. À la cinquième heure, vers 11h du matin, les Esséniens se lavent dans l'eau froide. C'est pas tellement héroïque dans ce climat. Et après cette purification, ils se réunissent dans une salle à eux, où aucun de ceux qui pensent autrement qu'eux n'a accès. Eux-mêmes n'entrent dans ce réfectoire qu'en état de pureté, comme dans une enceinte sacrée. Le prêtre bénit la nourriture, et il n'est permis à personne d'y toucher avant la prière. Après le repas, on prie à nouveau. Ceux qui désirent entrer dans la secte ne sont pas admis aussitôt. On leur donne un vêtement blanc. Et celui qui, après un certain temps, aura fait preuve de tempérance, est admis à se rapprocher davantage du genre de vie et participe au bain en vue de la purification, mais il n'est pas encore reçu au repas en commun. On éprouve encore ses mœurs durant 2 ans. S'il est alors jugé digne, il est accepté dans la société, mais avant de toucher à la nourriture commune, il s'engage envers eux par des serments redoutables. C'est une loi. Qu'en entrant chez les Esséniens, on abandonne à la corporation sa fortune. Toutes les possessions étant mises en commun, ils n'ont plus comme des frères qu'un seul patrimoine. Ils s'appliquent avec un zèle extraordinaire à la lecture des ouvrages des anciens, surtout en ce qui concerne l'utilité de l'âme et du corps. Dans sa jeunesse, Joseph, qui a vécu de 37 à 95 après Jésus-Christ, a dû faire un stage auprès d'un ermite juif. Et ces indications concordent avec celles de Philon. Je remarque que les chrétiens ne situent pas les Esséniens. Alors, il y a quelques grandes dates qu'il faut avoir pour survoler un peu ce qui nous sépare encore de la plénitude des temps et de l'apparition du Christ. Je crois qu'il faut remonter à Alexandre le Grand. 333, une date facile à retenir. Qu'est-ce qui se passe? La fameuse bataille d'Issus, et voilà que tout s'unifie sous la domination du fameux Alexandre, qui a droit à quelques versets, tenez, dans le premier livre des Maccabées. Après qu'Alexandre, fils de Philippe Macédonien, sorti du pays de Kittim, eut battu Darius, roi des Perses et des Mèdes, et fut devenu roi à sa place en commençant par l'Hellade, il entreprit de nombreuses guerres, s'empara de maintes places fortes, mit à mort les rois de la contrée. Il poussa jusqu'aux extrémités du monde en amassant les dépouilles d'une quantité de nations, et la terre se tut devant lui. On a connu ce genre de phénomène encore récemment. Son cœur s'exalta et s'enfla d'orgueil. Il rassembla une armée très puissante, soumit provinces, nations, dynasties, fils et tributaires. Après cela, île du Salité, et connut qu'il allait mourir. Voilà la place que la Bible fait à Alexandre. Que sert à l'homme de conquérir le monde? Oui. Alors, autre date à retenir, pas après Alexandre, ses généraux se partagent son empire. Et alors, retenons pas d'abord les Ptolémées. Et de 300 à 200, encore une date facile à retenir, ce sont les Ptolémées qui gouvernent, qui dominent la Terre Sainte. Alors, pas de problème, là, il y a une assimilation peut-être la plus perfide, une assimilation lente. Il n'y a pas une activité littéraire assez grande, mais il n'y a pas. Alors, en 200, ce sont les Séleucides, pas de Syrie, qui chassent les Ptolémées, qui étendent leur domination sur la Terre Sainte. Et alors, eux ont une politique maladroite d'assimilation forcée. Ils veulent absolument contraindre les Juifs à abandonner leurs traditions nationales et religieuses, et ça provoque une révolte que nous raconte le livre des Maccabées. Et là, un formidable rebondissement pendant l'existence. Ça commence en 167, et alors une poignée de résistants prend le maquis dans la montagne au nord de Jérusalem, et puis du côté de Gophna, et là, de là, ils infligent en 3 ans 3 défaites sensationnelles aux armées. C'est d'abord le fonctionnement du coin qui pense qu'il va venir à bout de cette révolte par une simple opération de police. Il est battu à plate couture. Ensuite, alors, c'est le fonctionnaire de Syrie qui se met en route. Lui aussi est battu à plate couture. Ensuite, c'est la fameuse bataille d'Emmaüs, dont on parlera sur la route de Gabaon le dernier jour quand on fera la route d'Emmaüs. Une immense armée qui se met en route vers la plaine côtière, là. Et puis, vous lirez le détail dans le livre des Maccabées. Troisième victoire. Et alors, ensuite, alors, les Grecs n'ont plus osé monter par les routes traditionnelles, la vallée d'Ayalon, la montée de Bethoron, la plaine de Gabaon. Ils ont descendu la plaine côtière plus bas, ils ont escaladé la montagne au sud de Jérusalem, et Judas Maccabée a été prévenu à temps. Il a été, encore une fois, à la rencontre de... Ils avaient la complicité des Iduméens qui étaient arrivés jusque-là, et qui ont été convertis ensuite de force par un descendant des Maccabées. Alors, une quatrième bataille, tellement décisive, une quatrième victoire tellement décisive qu'elle a permis la dédicace du temple, la fête de Hanouka, qu'on célébrait au temps de Jésus, et il y a toute une section de l'évangile de Saint Jean qui s'inscrit dans le cadre de la fête de Hanouka en 164. Et alors, les descendants des Maccabées, qui s'étaient révoltés donc pour sauvegarder l'intégrité du patrimoine culturel et religieux, voilà qu'à leur tour, ils deviennent des petits rois assimilés. Comme ils cumulent la royauté et le sacerdoce, ils introduisent jusque dans le temple les coutumes grecques. Alors ça provoque une espèce de révolte à la deuxième puissance, et c'est à ce moment-là, sous Jean Hircan, Alexandre Jeannet, je ne peux pas exactement interroger les professeurs, qu'ils ont dû s'installer ici. Alors si on visitait les fouilles dans le détail, on verrait qu'il y a deux installations. Il y en a une qui a duré jusque dans les années 40 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il y a eu à ce moment-là? L'invasion des Parthes, un tremblement de terre qui a tout chamboulé, leur installation d'eau. En tout cas, ils sont revenus alors à une époque contemporaine de la naissance du christianisme, et ils ont, semble-t-il, abandonné les sites, pris de panique lorsque les Romains, avant la prise de Jérusalem en 70, ils ont appris qu'ils arrivaient du côté de Jéricho. Et quand on visite les ruines de Masada, on voit une table rectangulaire, plutôt une salle rectangulaire qui ressemble étrangement à leur scriptorium, l'endroit où ils rédigeaient leurs manuscrits. Et il semble bien que certains de ces Esséniens ont été s'associer aux zélotes de Masada qui ont duré dans la résistance jusqu'en 72, 2 ans après la prise de Jérusalem partie. Alors, vous connaissez ces formidables découvertes épigraphiques, et puis la presse a la sensation qui s'est emparée de cela, qui a dit que Jésus existait avant Jésus. En fait, jamais les baptêmes esséniens n'ont eu la signification du baptême chrétien, de participation à la mort, à la résurrection du Christ. Jamais les repas sacrés n'ont eu la signification d'Eucharistie, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Et puis alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressemblances entre le style de vie des premières communautés chrétiennes. Dans les actes des apôtres, ils mettaient tout en commun, etc. Mais il y a une différence alors fondamentale. Ça, j'ai entendu exprimer par des meilleurs spécialistes sur la question, Yadin, qui est mort maintenant. Et il disait que c'était des gens qui se recroquevillaient complètement sur eux-mêmes. Jean-Baptiste, on le dit, et des gens en rupture par rapport aux Esséniens, quand il va à la rencontre des foules prêchant un baptême de pénitence, il n'avait pas désespéré. Et Jésus, lui, alors, est en rupture totale lorsque il va comme de préférence vers les marginaux, les pauvres, les prostituées, les illettrés, les malades, et tout cela. Et ça, il y a une différence, mais alors, radicale.
Ici, à Qumran,
on devrait parler de la secte de la Nouvelle Alliance, mais tandis qu'ici on renchérit plutôt sur les prescriptions, sur les observances. Vous vous rappelez, je ne suis pas sûr qu'on soit dans l'atmosphère de la Nouvelle Alliance telle qu'on l'a entendu exprimer par les prophètes, par Jérémie et par Ézéchiel. Et la Nouvelle Alliance qui fait la nouveauté de la Nouvelle Alliance, tellement la loi qui est inscrite dans le cœur. On trouve ça dans, vous rappelez-vous, les textes qu'on a lus de Jérémie. Je conclurai une Nouvelle Alliance, je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. Ézéchiel aussi, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez selon mes lois et que vous observiez et pratiquiez mes coutumes. Et je vous habiterai le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Et aussi dans le Deutéronome, on trouve exprimé ce qui fait la nouveauté essentiellement de la Nouvelle Alliance. Vous avez vu tout ce que Dieu a fait sous vos yeux au pays du Pharaon, etc. Mais jusqu'aujourd'hui, Dieu ne vous avait pas donné un cœur pour connaître, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Je crois que en poursuivant l'élan de l'étoile, nous allons mieux trouver cette nouvelle alliance dont parlaient les prophètes et qui s'accomplit dans le Nouveau Testament.
Ça, il y a une différence, mais alors radicale. Bon, on a fait un grand pas dans l'élan messianique qui mène vers la plénitude des temps, mais on est encore très très loin.